Utopode 002, 31 mars 2007. La fin du monde de Xavier Mauméjean. Première partie. Attention, le contenu de l'émission d'aujourd'hui est réservé à un public averti. Nous le déconseillons aux jeunes enfants et aux âmes sensibles. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Utopode, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Mon nom est Lucas Moreno et je suis le coproducteur de ce podcast avec Marc Tiefenauer. Le principe de notre émission est simple. Proposer à chaque épisode une lecture de nouvelles francophones, de science-fiction, de fantastique, de fantasy ou d'un genre littéraire apparenté. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site www.utopode.com. Le texte que nous vous proposons aujourd'hui, La fin du monde, de Xavier Mauméjean, est paru pour la première fois en janvier 2004 dans le numéro 33 de la revue française Bifrost. Étant donné sa longueur, nous vous le livrons en deux fois, la première partie aujourd'hui et la deuxième dans notre prochain numéro. Xavier Mauméjean est né en 1963. Diplômé de philosophie et de sciences des religions, il est l'auteur d'une dizaine de romans policiers et de science-fiction, mais aussi de nombreuses nouvelles parues dans les revues Fiction, Bifrost et Fairies, ainsi que dans diverses anthologies. Il a obtenu trois grands prix littéraires, dont le Renier est né en 2005, pour son roman La Vénus anatomique. Traduit aux États-Unis, il a écrit aussi pour la jeunesse, la télévision et la radio, et exerce également en qualité de critique littéraire et d'essayiste. Il vit dans le nord de la France avec son épouse et leur fille Zelda. La lecture de La fin du monde est assurée par Rita Gay. Diplômée de l'école romande d'art dramatique, elle est comédienne professionnelle depuis une vingtaine d'années. Elle a travaillé pour le théâtre, le cinéma et la radio. Passionnée par l'adaptation vocale d'œuvres littéraires, elle en a fait sa spécialité, qu'elle enseigne et exerce à plein temps. Pour en apprendre davantage sur ses activités de lectrice et sur les cours qu'elle dispense, rendez-vous sur son site, dont vous trouverez l'adresse sur utopode.com, dans l'article qui accompagne l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci à Xavier pour sa disponibilité et sa sympathie, ainsi qu'à Rita pour son chaleureux accueil et sa générosité. Et maintenant, installez-vous confortablement dans un fauteuil et place à la littérature.
La fin du monde, de Xavier Mauméjean, première partie. Il fallait d'abord frapper le chien. Pour attendrir la viande ou au contraire saturer les tissus d'adrénaline, afin d'augmenter sa saveur. Sur ce point, les écoles divergeaient, mais toutes admettaient l'importance du rituel. Le premier assistant de Paul Venn tira de sa cage l'animal à poils gris, couleur de hyène. Le meilleur choix. Contrairement à la vision simpliste des Occidentaux, n'importe quel chien ne pouvait convenir pour la préparation du ticho. À défaut d'un gris, on pouvait se rabattre sur un jaune tacheté de marron. Jamais un noir, réservé au traitement des maladies mentales, ce qui aujourd'hui aurait fait montre d'une impardonnable faute de goût. L'aide rôtisseur plaça le chiot sur son plan de travail et le frappa en répartissant uniformément les coups pour éviter les hématomes. La bête tenta de se dégager, mais ses membres étaient entravés par un câble d'acier. Comme elle aboyait, Paul Venn fit signe à un cuistot d'augmenter le volume de la chaîne. L'art de la fugue, interprété par Glenn Gould, couvrit les hurlements. Le célèbre cuisinier Paul Venn aimait travailler en musique. Diffusion dans 15 secondes. À travers ses lunettes, munies de loupes, Paul fixa le décompte numérique affiché sur l'écran. Un live clignota, avant de laisser place à un gros plan de sa femme. Elle était assise au milieu de leur salon, le canon d'un automatique pointé sur sa tempe. La situation n'avait rien d'exceptionnel, mais elle était éprouvante. Il devait l'oublier, ne songer qu'à son art. Nous pouvons commencer. L'équipe se rassembla autour de la table. Paul Venn saisit le chiot par la patte arrière gauche et plongea son couteau dans l'aine. L'animal glapit et se vida durant une dizaine de minutes. Un marmiton recueillit le sang dans un récipient afin de l'utiliser plus tard. Puis le rôtisseur répartit sur la fourrure un mélange de paille et de mélasse. Il le laissa sécher avant de tirer le poil d'un coup sec. Mise à nu, la chair pouvait être accommodée. Paul Venn entama la préparation. Il extirpa le foie et le débita en lamelles avant de le faire cuire à part. Le cuisinier ficha ensuite quelques dés de poitrine sur une brochette, détacha soigneusement les cuisses et incisa le collier. Il avait chaud sous sa toque. Une étudiante en cuisine lui épongea le front. « Vous pouvez lancer les légumes. » Les cuistots firent blondir les oignons tout en surveillant aubergines, carottes et navets. Polven supervisait les opérations. Son premier assistant s'occupait de lier le sang pour confectionner les boudins. Un maître saucier venu spécialement de Hanoï prépara le mam tom, l'accompagnement idéal à base de crevettes fermentées. « C'est bon, patron. » Paul récupéra les lamelles de foie et reconstitua l'organe qu'il déposa ensuite sur un lit de menthe. Puis il piqua les pieds du chien. Des morceaux de choix, brûlants et caramélisés, servis avec une moutarde kaikei extrêmement relevée. « On va dépasser l'horaire, chef. » Paul jeta un œil sur l'écran de contrôle. Sa femme, dont l'image numérique reproduisait fidèlement les cernes, semblait le fixer. « Très bien, on finira en route. Préparez les chauffe-plats. » Le personnel rassembla les condiments nécessaires sur un chariot de maintenance. Traversant les couloirs du restaurant, Polven et ses collaborateurs gagnèrent l'extérieur. Une ambulance affrétée par la ville de New York les attendait sur le parking. « Prions pour qu'ils aient vérifié la suspension, » songea Paul. Le cuisinier chargea personnellement les plats avant de prendre place dans le véhicule. À son signal, le convoi démarra. Précédé par des motards de la police, l'ambulance descendit la 5e avenue, sirène hurlante. Des barrières de sécurité étaient placées face à l'entrée du Waldorf Astoria. Deux gardes leur ouvrirent un passage. Montant précautionneusement les marches, Polven et son équipe pénétrèrent dans l'hôtel. Un fonctionnaire des Nations Unies les attendait à la réception. « Ils s'impatientent. Suivez-moi. » L'élévateur fila directement au 10e étage. Un agent des services secrets leur ouvrit la porte de la suite présidentielle. Nguyen Dom se trouvait au centre du salon Lincoln en compagnie de Suvanavatana. Les ministres vietnamiens et laotiens attendaient de passer à table. « Monsieur Venn, le célèbre entremetteur, quelle joie de faire enfin votre connaissance !» Nguyen Dom affichait un sourire jauni par la nicotine. Le diplomate vietnamien fit signe à Paul de les rejoindre. « J'espère que ce que vous nous avez préparé dissipera les malentendus qui existent entre nos deux pays. » Suvanavatana ne semblait guère convaincu. Mais en tant qu'agresseur, il devait laisser le choix des armes à son adversaire. Nguyen Dom avait opté pour un repas de chien, comme on le prépare dans la province du Nord-Vietnam. Et pour ne prendre aucun risque, il avait choisi Paul, un entremetteur prisé dans les sphères politiques. Dom tira une cigarette russe de son étui. « Savez-vous pourquoi j'ai voulu du tichor ? Parce que selon nos croyances, il n'existe pas de chien en enfer. Dans ce cas, mangeons pour la paix. » Dépliant sa serviette, Vatana fit signe qu'il était prêt. Les techniciens suisses, choisis pour leur neutralité, placèrent les capteurs sur le ministre laotien et branchèrent le détecteur de mensonges. Paul et son premier assistant présentèrent la totalité des plats. Contrairement à la cuisine française qui privilégie la succession des mets, l'usage vietnamien exige que tout soit servi simultanément. L'art de la table est aussi affaire de tradition. « Que nous conseilleriez-vous pour commencer ? Peut-être un potage clair, relevé de ciboulette. » Le ministre laotien aspira bruyamment le contenu de sa cuillère. « Qu'en pensez-vous ?
Ce n'est pas mauvais. »
« Excellent, voulez-vous dire ?» Nguyen Dom jubilait en observant le listing dévidé par le détecteur. L'oscilloscope traçait une ligne régulière. Vatana ne pouvait mentir sans perdre la face. « Et ensuite ?»«
Le ragoût de collier à l'eau de riz. » »«
Je vous en prie, cher monsieur Venn, joignez-vous à nous. » Un membre du corps diplomatique vietnamien rajouta un couvert. Paul goûta sa préparation. La chair filandreuse avait goût d'agneau.
plus étonnante était la sauce. Sang douceâtre et acidité de l'amidon formaient un audacieux contraste, un contrepoint inattendu qui flattait la bouche. Nous devrions accompagner cette splendeur de quelques bandas. Le ministre vietnamien tendit à ses hôtes les crêpes au sésame. D'un haussement de sourcil, Paul Venn invita son sommelier à verser l'alcool de sexe canin, une boisson rare, y compris dans son pays. Nguyen Dom soupira d'aise. L'entremetteur faisait preuve de tact. Le repas touchait à sa fin. Il restait cependant une épreuve capitale. Paul et les diplomates attendirent en silence de passer aux toilettes. Suvanna Vatana se leva le premier. Il urina une pisse brune et épaisse, formidablement odorante, signe que le repas était un succès. Convaincu, le ministre laotien présenta officiellement ses excuses au Vietnam. La crise était écartée. Entremetteur, un cuisinier capable d'annuler les tensions internationales. Préserver l'ordre du monde en confectionnant des menus, rares étaient ceux qui endossaient pareille responsabilité. Paul Venn appartenait à cette minorité d'élus. Par humanisme, il avait accepté de mettre en péril son couple, de risquer la vie de sa femme à chaque fois qu'il confectionnait un plat. S'il ne parvenait pas à préserver l'intérêt général, Paul devait payer. Ce n'était que justice. Jusqu'à aujourd'hui, Caroline lui devait son salut. Contrairement à ce qu'elle affirmait, ce n'était pas une question de chance, uniquement de talent, d'une maîtrise parfaite de son art, même si Caroline ne l'admettait pas. Pourtant, elle devrait finir par accepter, comprendre que c'était l'unique solution. Plus de guerres, de conflits meurtriers qui fauchent des milliers de vies déjà faites. La faim renvoie au début. Condition première de l'existence, le besoin de manger s'inscrit dans un cycle naturel. Une pyramide alimentaire dont l'homme occupe le sommet. Plus un animal assimile des nourritures variées, plus il est intelligent, car il doit multiplier ses techniques de chasse. Et l'être humain est omnivore. Paul alignait les arguments pour tenter de convaincre sa femme. Les rites culinaires favorisent l'échange social. Les politiciens de l'ancien temps l'avaient bien compris en plaçant le repas au centre des négociations. Mais ce qui n'avait été durant des millénaires qu'une simple convention diplomatique, un rituel protocolaire auquel il convenait de sacrifier, s'était transformé au tournant du siècle en règlement définitif. Deux nations en conflit économisaient la mort de leurs citoyens en s'affrontant lors d'une dégustation. Breakfast ou souper tardif importait peu, du moment que l'incident se réglait. Pour vaincre, il fallait faire appel au meilleur. C'est ainsi qu'était apparu l'ordre des entremetteurs. Des cuisiniers richement appointés dépendant uniquement des Nations Unies et joignables à toute heure. Des artistes, en somme, qui consacraient la vie à l'art. Non pas leur existence, mais celle de leurs proches. Caroline ne l'admettait pas. Elle l'attendait dans leur salon, assise sur le fauteuil qui, quelques heures auparavant, faisait face à la caméra. À croire qu'elle n'avait pas bougé. Paul Venn balaya la pièce du regard. Tout paraissait à sa place. Les tueurs des Nations Unies effaçaient la moindre trace de leur passage. Ils avaient l'habitude, connaissaient parfaitement le grand appartement de Central Park West. Paul en était à sa 8e mission. L'entremetteur jeta sa toque sur un canapé et avança en direction de son épouse. Caroline fit mine de reculer. « Alors, Paul, as-tu sauvé le monde ?»« Peut-être pas le monde, mais l'Asie du Sud-Est. »« C'est bien. As-tu pensé à ta femme pendant que tu créais ?»« Non. Si je l'avais fait, tu serais morte. » Caroline se servit un verre. La bouteille de Château d'Yquem posée sur la table basse était aux trois quarts vide. Elle reprit en tentant d'allumer une cigarette. Morte. Il vaudrait peut-être mieux. Tu pourrais ainsi te consacrer à ton art, l'esprit dégagé. Polven observa son épouse. Il ne restait plus grand-chose de sa beauté d'autrefois, ni de son caractère. Caroline était anorexique et frigide. Elle n'acceptait rien de Paul qui puisse entrer en elle. « Je vais me préparer quelque chose. »« Ne fais rien brûler. J'ai assez donné pour aujourd'hui, » dit-elle. Laissant son épouse tituber jusqu'à leur chambre, l'entremetteur gagna la cuisine. Paul se contenta d'un simple blanc de poulet nappé d'une sauce béchamel. Après chaque création, il consommait de la nourriture blanche, vierge, pour reconstituer l'hymen de son imagination. Tandis qu'il mangeait, Polven relut un passage de la Bible, précisément une prescription du Lévitique relatif aux usages cachers, interdits frappant le porc dans le judaïsme et l'islam, vaches sacrées en Inde. Il connaissait les pratiques alimentaires attachées à chaque culture, par souci professionnel aussi bien que par goût. Ces codes avaient cependant perdu toute valeur religieuse. En même temps que des guerres, les hommes s'étaient détournés de Dieu, d'un père, lointain et sourd à leurs souffrances. Cronos dévorant ses enfants, là encore une affaire de cuisine. Dorénavant, l'être humain décidait seul de son destin, mais les anciens tabous demeuraient vivaces. 5000 ans de croyances laissaient forcément des traces. La communion, qui devait avoir lieu dans un mois, en était le plus parfait exemple. Paul vida son verre de lait et consulta le répondeur. L'appareil affichait 2 appels en absence. Un message des Nations Unies le félicitant pour son ticha et une invitation de François Gilson à venir le rejoindre. François, son mentor quand il était étudiant à l'école hôtelière de Lausanne. Les deux hommes avaient maintenu des liens qui s'étaient distendus 4 ans plus tôt, après que Gilson eut préparé le repas de communion. Depuis, il vivait en Caroline du Nord, reclus dans son restaurant fermé au public. Ainsi donc, il souhaitait le revoir. Polven ne pouvait refuser. Il prit le vol Transamérica reliant New York à Charlestown. Parvenu à destination, il franchit le portique de sécurité qui s'activa instantanément. Polven présenta son passeport diplomatique aux agents. Le document garantissait libre circulation à l'entremetteur. On ne lui fit pas ouvrir sa mallette contenant ses instruments favoris, couteaux et hachoirs façonnés dans de l'acier chirurgical par les laboratoires pharmaceutiques Sando. Il ne s'en séparait jamais. Paul récupéra son bagage et gagna la sortie. François Gilson l'attendait dans le hall. Il l'accueillit en l'embrassant sur les joues à la française. Les deux hommes grimpèrent dans le coupé sport de Gilson et prirent la direction du centre-ville. Coupant court aux banalités d'usage, le voyage s'effectua en silence. Pour savoir ce que voulait son maître, Polven devrait attendre. Le restaurant La Bécasse était situé sur Murray Boulevard, la salle principale de l'établissement qu'éclairait d'immenses baies vitrées donnant sur la péninsule de Charlestown était déserte. Des housses recouvraient les meubles, à l'exception de leurs tables dressées, et il flottait un vague relent d'humidité. François l'invita à s'asseoir face à la bibliothèque. Paul déchiffra les titres des volumes, tirage de prix au dos cassé à force d'être lu. L'édition complète de l'Almanach des gourmands par Grimaud de la Reynière, embastillé pour ses œuvres. Apicius, le célèbre gastronome romain qui s'était empoisonné après un repas inégalable. Le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Les règles du savoir-vivre, fixées par la baronne de Staff. Tous ces écrits majeurs figuraient sur les rayons, séparés par des pots à condiments contenant des épices rares. Davantage qu'esthète, François Gilson était un penseur, le théoricien d'un art éphémère reconduit plusieurs fois par jour. Pourtant, il ne pratiquait plus qu'à de rares occasions. La venue de Paul était l'une d'entre elles. Assurant lui-même le service, Gilson déboucha une bouteille de grands échezos. J'ai préparé quelque chose à la manière du lieu, une synthèse des cuisines cajun et confédérées. Tu devrais aimer. La soupe de pois s'avéra excellente, ainsi que les travers de porc grillés au barbecue. Paul goûta ses mets au bord actif et sans affectation. Gilson était parvenu à une admirable simplicité, une véritable épure, la marque du talent authentique. François le laissa seul un instant pour se rendre en cuisine. Il revint avec une énorme marmite contenant un ragoût de crabe, crevettes et saucisses fumées. Saisissant un crustacé, Gilson lui arracha les pinces. « J'ai fait mes courses ce matin même, sur l'ancien marché aux esclaves. Elles sentent encore la mer. » Le cuisinier français les resservit plusieurs fois, accompagnant le ragoût d'un flamboyant « Chassagne Montrachet, 1992 ». Au dessert, un pudding de riz brun à la cannelle. François Gilson se décida enfin à parler. « Comment va, Caroline ?»«
Pas très bien. »
Machinalement, Gilson rompit un biscuit de patates douces. « Je sais. Ma femme est passée par là. Passée puis partie. Je n'ai plus aucune nouvelle d'Annette. »
Paul se souvenait. 4 ans plus tôt, alors que Gilson se préparait à la communion, son épouse avait réclamé le divorce. Elle voulait des enfants, il s'y refusait. François Gilson ne pouvait risquer de voir sa famille exécutée sur un écran de contrôle pour avoir loupé une béarnaise.
« François, tu n'as plus donné signe de vie du jour au lendemain. Qu'est-ce qui justifie ma présence ici ?»
Le restaurateur servit les cafés.
« La communion. Les Nations Unies s'apprêtent à désigner l'élu, celui qui conduira la cérémonie. Tu fais partie des finalistes, Paul. »
Paul Venn préleva un cigare dans le coffret humidificateur en cèdre. Sa main tremblait. Il avait espéré cet instant toute sa vie.
« Merci. Je suppose que la concurrence est redoutable ?»«
Plus que tu ne le crois. Enrique Mendez est en lice avec sa cuisine sacrificielle aztèque, ainsi que Anitomo Katsura. Sa timbale de dinde Thanksgiving au curry a rétabli les négociations entre l'Inde et les États-Unis.
Tu pouvais m'apprendre la nouvelle par téléphone, pourquoi souhaiter me voir ?
Afin de te préparer.
Observant l'océan gris à travers la baie vitrée, François Gilson demeura un long moment silencieux.
Si tu es choisi, ce que je crois, la communion sera ton dernier repas. Le grand Paul Venn n'aura plus jamais le droit de cuisiner. Pire, il n'en ressentira plus l'envie.
Paul tira pensivement sur son havane. Il connaissait les règles.
C'est la raison de ton silence ?
Oui. Lorsque tu as vécu cette expérience, rien ne peut la surpasser. J'ai essayé de me distraire, de voyager. Peine perdue.
Que sont devenus les précédents élus, ceux qui ont officié avant toi ?
Le chef français haussa les épaules.
Morts. Tous morts d'ennui. Et crois-moi, je les envie. La communion marquera ton apogée, Paul, et précipitera ta chute.
Lorsque Paul Venn regagna son propre restaurant le lundi suivant, l'équipe était rassemblée autour des fourneaux. Du premier rôtisseur au moindre commis, tous souriaient. « Vous avez reçu un colis, patron, en provenance du Mexique. »
Enrique Mendez était l'expéditeur du paquet. Paul ouvrit le carton.
Il contenait des friandises soigneusement emballées dans du papier de soie, crânes et tibias confectionnés en massepain, la nourriture des morts.
« Qu'est-ce que cela signifie ?»«
Que vous êtes l'élu, monsieur, celui qui dirigera la communion. »
Ils l'applaudirent et débouchèrent du champagne. Paul Venn se servit un ballon de cognac. Il fixait les friandises mexicaines, celles offertes aux défunts le jour de la Toussaint. Mendez était-il jaloux ou cherchait-il à lui rendre hommage ?
Félicitations, patron !
Paul se souvint des paroles de Gilson. En servant la communion, il parviendrait au sommet de sa carrière.
C'est un honneur de travailler pour vous, chef.
Et confectionnerait son ultime repas.
Pour l'instant, ce n'est pas officiel.
Tant de recettes restaient à découvrir.
Les Nations Unies l'annonceront ce soir.
Tant de saveurs à tester.
Son premier cuistot lui fit face. Videz votre verre, patron, et ensuite au boulot. Il va falloir songer à préparer l'humain.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. suite et fin de la fin du monde dans notre prochain épisode. En attendant, rendez-vous sur notre site www.utopod.com où vous trouverez une mine d'informations sur nos émissions ainsi qu'un article accompagnant chacun de nos épisodes. Vous y découvrirez, entre autres, des liens internet pour vous procurer les derniers ouvrages de Xavier Mauméjean. Sur le site, vous pouvez aussi laisser un commentaire à propos du récit que vous venez d'écouter, nous écrire pour nous donner vos impressions sur l'émission, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos messages, vous abonner gratuitement, en apprendre davantage sur notre concept et bien d'autres choses. Utopod est un projet à but non lucratif, ses producteurs travaillent de façon totalement bénévole et comptent exclusivement sur les dons et le parrainage pour les frais techniques et éditoriaux de base, notamment la rémunération des auteurs, que nous nous fixons comme but à court terme. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un petit geste en cliquant sur l'icône euro en pied de page dans notre site. Utopod est un podcast totalement indépendant qui veille soigneusement à la protection des droits de ses auteurs. Le contenu de ses émissions ainsi que les textes qui y sont proposés sont strictement soumis aux conditions d'utilisation de la licence Creative Commons. Paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. En clair, cela signifie que vous pouvez librement écouter et faire découvrir les épisodes d'Utopod tant que vous respectez trois conditions. Ne jamais en modifier le contenu, ne jamais en faire une utilisation commerciale, toujours indiquer clairement la paternité et la source des émissions et des œuvres littéraires qui y sont lues. Et n'oubliez pas, si vous aimez Utopod, abonnez-vous-y, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, à votre chat, à votre tortue. Vous l'aurez compris, chaque nouvelle inscription est pour nous extrêmement précieuse. Alors rendez-vous bientôt pour le numéro 3 d'Utopod, et d'ici là, lisez beaucoup et portez-vous bien. Bye bye !